RMC.
Monsieur le maire.
10h, 13h.
Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, plein emploi. Et troisièmement, plein emploi.
Personne ne peut faire ça.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Si on n'arrête pas de supprimer les emplois, alors assez de temps.
Les grandes gueules.
Faut se réveiller, quoi.
Bonjour à tous, bienvenue les grandes gueules en direct jusqu'à 13h sur RMC avec aujourd'hui notre instituteur de Normandie, Sylvain Grandserre. Salut Sylvain.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Il vient des Deux-Sèvres, il vend du fromage. Et oui, Johnny Blanc, bonjour Johnny.
Salut Olivier, bonjour à tous. C'est un petit mot pour ma fille qui a ses 18 ans aujourd'hui, donc je vous souhaite un très bon anniversaire.
Ah bien, on l'embrasse, bon anniversaire.
Comment s'appelle-t-elle?
Morgane.
Très bien.
Et alors, ça fait quoi d'avoir une fille de 18 ans?
Ça te rajeunit pas. Mais quand on a déjà une de 22, ça change pas grand-chose.
Et puis l'éducateur de Seine-Saint-Denis est avec nous, Étienne Libig. Salut Étienne.
Bonjour, 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 bonjour à toutes les auditrices.
Tu as dormi quand même cette nuit?
Non, pas vraiment.
Non, d'accord, c'est pour ça. Bon, alors réveille-toi. Un café pour Étienne Libig. Et puis dans un instant, on va quand même évoquer le cas de Delphine Bateau. Budget touché, bateau coulé. C'est un peu le résumé de l'actualité. Delphine Bateau s'en va. François Hollande a-t-il eu raison de couper la tête de la ministre de l'écologie? On reviendra également sur cette histoire de photos. Les Restos du Cœur privés du portrait de Coluche, cette fameuse photo en noir et blanc qui illustre la campagne des Restos du Cœur depuis maintenant tant d'années. Eh bien, c'est terminé parce que le photographe, eh bien, veut récupérer ses droits et il n'y a pas eu d'entente entre les Restos du Cœur et ce photographe. On vous contera toute cette histoire et puis, bien entendu, au pays d'Hollande avec notamment l'histoire de The Voice, Bernard Tapie qui aurait essayé de faire gagner sa fille. C'est pas possible. Faut-il un tribunal, un arbitrage pour résoudre ce problème? On en parlera dans le pays d'Hollande. Allez, c'est parti. Delphine Bateau était à la une de l'actualité hier.
Il ne doit y avoir qu'une seule ligne au sein du gouvernement.
Quand j'entends le nombre d'âneries qu'a pu proférer Arnaud Montebourg depuis 18 mois, il aurait dû être viré 5 fois.
Il ne peut y avoir donc que des expressions, que des attitudes, que des actions qui correspondent à la ligne que j'ai fixée, à la politique que je conduis.
Vous connaissez la chanson de Guy Béard ? Elle a dit la vérité, elle sera exécutée.
Le premier qui dit la vérité.
Au nom de la République française, puisqu'il m'est encore permis de le faire, je voudrais remercier mon équipe. À présent, je souhaite à Philippe Martin bonne chance dans ses fonctions et bon travail. Et en ce qui concerne les circonstances de ce limogeage et ses conséquences, je dirai tout dans une conférence de presse demain à 15h.
Voilà, ça c'est la voix de Delphine Bateau ce matin lors de la passation de pouvoir avec le nouveau ministre de l'écologie. Il s'appelle Philippe Martin, député socialiste du Gers. On le connaît bien puisqu'il venait régulièrement dans le conseil des GG le mercredi. On l'avait repéré, vous voyez, comme quoi on est un peu des éleveurs de ministres, nous, dans les grandes gueules sur RMC.
Très écolo aussi, c'est ça.
Oui, c'est plutôt un spécialiste de l'écologie, effectivement, au sein de son parti. On écoute Philippe Martin.
C'est bien sûr une très très grande émotion personnelle, mais au fond elle compte peu à l'égard de ce qui m'attend et au travail qui m'attend. Mon travail, ce sera effectivement de faire que l'écologie soit effectivement à la place qui lui revient dans la politique du gouvernement, c'est-à-dire une place de choix.
Alors, pour avoir donc critiqué le budget de l'écologie en baisse, la ministre a été remerciée, remplacée donc par Philippe Martin. Hollande, le mou devient Hollande, le coupeur de tête. A-t-il eu raison de virer Bateau, Johnny Blanc?
Écoute, je pense que oui, sur le fond, il a raison, parce qu'effectivement, c'est à des ministres, puis que tout le monde tirait eu à dire dans tous les sens. Je vois pas comment tu peux arriver à être là. Par contre, où il a pas très raison, quand il dit j'ai fixé une ligne, faut la suivre. Quand tu vois les trois ministres de l'écologie qui se succèdent en moins d'un an, et quand tu regardes chacun leur position, tu m'excuseras, je sais pas trop où est la ligne, quoi. Parce qu'entre Delphine Bateau, qui était quand même quelqu'un, je pense, progressiste et qui avait envie d'avancer, et quelqu'un comme celui qui vient d'être nommé, qui en fin de compte, ressemble plus à un réac anti-OGM, anti-gaz de schiste, anti tout ce que tu veux, j'ai pas l'impression d'être le même personne. Donc je vois pas comment des personnalités aussi différentes peuvent suivre la même ligne.
T'aimes bien les ministres de l'écologie quand ils sont pas écologistes.
Mais non, moi je veux dire, ils ont beaucoup plus simple que ça, parce que moi je serais au gouvernement aujourd'hui, je pense que je ferais carrément une économie de 7,5 milliards, parce qu'il sert à rien ce ministère. Le ministère de l'écologie avait une fonction réelle avant. Aujourd'hui on y a retiré le transport, on y a retiré le logement, ce qui représente 75% des émissions de gaz à effet de serre. Quel intérêt d'avoir un grand ministère avec un budget pareil qui gère rien? Franchement, c'est de l'argent gaspillé.
Sur Twitter, certains faisaient remarquer hier que les Français en fait avaient assez occasion découvert le nom de leur ministre de l'écologie. Parce qu'on peut pas dire que Delphine Batho, d'ailleurs c'était un reproche qui revenait souvent, ouais. Delphine Batho n'existait pas beaucoup sur la scène politique dans ce gouvernement.
Ouais, un bateau qui n'existe pas sur la scène, c'est dommage.
Tu avais remarqué que tous ces genoux.
Non, ce sera le seul. Non, moi écoute, ça me rappelle une situation de classe. Tu sais, des fois, tu as plein d'élèves chahuteurs qui parlent sans autorisation. Et à un moment, le prof en a ras-le-bol. Il dit, bon, je vous préviens, le prochain qui parle sans permission,
il meurt.
Et là, c'est toujours le bon élève de la classe qui prend la parole.
Ça se passe comme ça dans ta classe?
Non, il parle pas. Dans ma classe, il ne parle pas du tout. Tu le sais bien. Non, j'ai un micro à mon bureau et je suis le seul à avoir le droit de parler. Non, mais sérieusement, c'est vraiment ça.
C'est tombé sur elle.
Elle est vraiment la bonne élève. Elle est jeune, elle est solitaire, elle a pas de réseau, elle a pas un gros ancrage politique sur lequel s'appuyer. Donc il y a un petit peu ce côté-là, ça tombe sur elle. Après, moi je m'intéresse aux conséquences, parce qu'effectivement ça commence à tanguer fort. On voit ce matin que les Verts hésitent à se maintenir dans le gouvernement, et puis on a les municipales l'an prochain. Hein. François Hollande appelé à des listes d'union. Là pour le coup,
sur ce qu'elle a dit, revenons sur les faits.
C'est une erreur.
Elle a dit quelque chose, et derrière on lui dit est-ce que tu veux revenir sur tes propos ? Parce que Hollande lui a proposé de revenir sur ses propos. Elle a dit non, et donc elle est virée. Cheminement-là, est-ce que c'est normal?
Je te réponds, elle fait une erreur de communication. C'est-à-dire que ça se règle en interne, ça se règle en interpellant son ministre de tutelle, voire son premier ministre. Mais t'attends pas d'être dans un studio de radio pour balancer comme ça. C'est pas une façon de faire de la politique.
Et Tiani Big.
Il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Moi, je défends depuis le début. C'est-à-dire que si le budget de l'écologie est celui qui a diminué le plus du ministère de l'écologie, c'est parce qu'en fait, l'écologie, ça reste un concept malheureusement de luxe. C'est-à-dire que là, on est obligé d'accepter maintenant que quand on est en crise, l'écologie comme la culture en prennent plein la poire, parce que on se dirige vers l'indispensable et qu'en fait, on se rend compte que l'écologie, on n'y est pas du tout. On n'est pas du tout aujourd'hui, alors on peut y réfléchir, il y a des gens qui écrivent des livres, mais on n'est pas du tout aujourd'hui dans un véritable choix où on dirait, est-ce qu'on choisit plutôt la question industrielle ou la question écologique ? Non ! On est simplement aujourd'hui en train de se dire, bon, on a fait un grand baratin avec l'écologie, on sait très bien que c'était du bidon et que c'était pour récupérer des voix, et maintenant on se trouve dans la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de thunes, qu'on est dans une période de crise, et on va sucrer de l'argent. C'est ça le fond. En fait, que ce soit Martin ou que ce soit Bateau, ils vont tous se retrouver dans la même galère. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura moins d'argent pour l'écologie cette année, et moins encore l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de thunes, et parce que c'est sur ces ministères-là qu'on va rogner, comme on va rogner sur la culture. Maintenant que le mec le dise en public, bon, elle aurait mieux fait de le dire en privé qu'en public.
Mais peut-être que c'était aussi une opération
peut-être aussi
téléguidée.
Mais en tout cas, le plus important à se souvenir là-dedans, c'est que aujourd'hui, il n'y a aucun État, y compris l'Allemagne, qui vraiment mise sur l'écologie. C'est-à-dire qui a aujourd'hui en période de crise les moyens de le faire. Peut-être que celui
non,
qui
mais
a
tu attends, misère, ça, t'es en train ben, de dire que l'écologie c'est du luxe.
Interluxe, bien sûr.
C'est un luxe.
Bien sûr, même si on pense au fond de soi-même que c'est quelque chose d'indispensable, que c'est hyper important.
Non mais il y a plein de gens qui disent le contraire, qui disent au contraire c'est l'avenir.
Mais non, mais moi ce que je vous dis c'est la croissance,
elle est là.
Les emplois,
ils sont là. Ils sont pas dans l'industrie ancienne et traditionnelle.
C'est que aider. Excuse-moi, c'est
au début.
Mais non.
Excuse-moi.
Excuse-moi. Quand l'État décide d'arrêter sa subvention sur l'aide aux panneaux solaires qu'on met sur les toits, il y a plus de panneaux solaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
oui, c'est un choix politique.
Les privés comme toi et moi, quand ils se font construire une maison, ils n'ont pas la thune d'installer des panneaux solaires si on les aide pas à le faire.
Mais oui.
Donc c'est de la subvention.
Mais là, tout a été subventionné.
Mais il y en a plus de subventions aujourd'hui.
L'Airbus a été subventionné en son temps.
D'accord, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, mais personne n'est prêt à payer son électricité 4 fois le prix qu'elle vaut aujourd'hui. C'est ça le problème. Les salaires bougent pas. Alors,
vous êtes en train de dire l'écologie.
Mais l'écologie, c'est comme le bio. Je veux dire, c'est bien pour ceux qui ont les thunes plein les poches. Les autres, ils peuvent pas en bouffer des bio. Faut arrêter.
Non, mais au-delà des caricatures sur le bio, d'aucuns disent que l'écologie, c'est l'avenir.
Avec quel argent?
Mais parce qu'au début, il faut des coups de pouce.
Non,
c'est toujours pareil.
Alors, c'est l'avenir. L'écologie a une seule condition, qu'on accepte de renier sur plein d'autres budgets.
La preuve,
là, que ça n'existe pas.
Mais parce que là, c'est un choix politique. On peut contester ce choix politique.
Mais il est le même partout. Je veux dire, culture et écologie,
L'écologie, c'est exactement les mêmes discours à l'inverse de ce que nous tiennent les gens qui sont pour le gaz de schiste. Quand ils disent que si on fort pour le gaz de schiste, on va créer des milliers d'emplois. Quand tu regardes aux États-Unis, un puits foré, ça crée un emploi. Voilà. Mmh. C'est pas plus compliqué. Donc ça veut dire qu'en France, pour créer 100 000 emplois, faut créer 100 000 puits. Non mais faut arrêter. Donc faut arrêter de croire tout le monde qu'il y a des solutions miracles.
Revenons sur le limogeage de Bateau. Beaucoup disent que finalement François Hollande est faible avec Montebourg et joue les durs avec Bateau qui n'a pas du tout le même poids politique. Il y a même Jean-Luc Mélenchon qui a dit que François Hollande avait montré un vrai visage, un vrai visage, machiste et violent. Est-ce que vous partagez ça?
Non, machiste, ce serait grave. C'est-à-dire qu'on pourrait plus. Non, c'est l'inverse. Ce serait machiste de penser qu'on peut pas s'en prendre à une femme politique parce qu'elle est femme. Mais par contre, dans en termes d'efficacité de communication et dans l'opinion publique, ça peut effectivement être destructeur de dire, pour une fois qu'il y a une femme ministre, ça tombe sur elle. Pour une fois qu'il y a une ministre jeune, ça tombe sur elle. Pour une fois qu'il y a une ministre qui est pas une extravertie et qui passe son temps à s'étaler dans les médias, ça tombe sur elle. Donc pour le coup, c'est sûr. Non, moi, j'aurais juste prolongé ce qu'a
dit. On peut virer quand même une femme sans être traité à chaque fois de macho ou misogyne.
C'est exactement ce que je viens de dire.
Ça vous a pas échappé que dans ce gouvernement.
J'ai même que c'est misogyne de dire ça.
C'est ce que je viens de dire.
Pour moi, ça vous a pas échappé que dans ce gouvernement, quand même, les femmes qui sont ministres n'ont pas eu les postes clés. Donc c'est un peu moins dérangeant. Oui, bon, voilà, d'accord. Bon, mais ça gêne moins. Non, mais ça gêne effectivement moins de virer Bateau que de virer quelqu'un qui est aux finances, qui est au budget, qui est évidemment, ça c'est clair.
Ah oui, Cahuzac, par exemple.
Voilà,
ça c'était vraiment emmerdant.
Oui, c'est vrai que quand même que Delphine Bateau a été virée en 10 heures, Cahuzac en 4 mois.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai quand même que tu te dis, quand même. Attendez. Donc, t'as quand même un gros soupçon d'avoir un ministre du budget, donc de la lutte contre l'évasion fiscale, qui lui-même arrange sa propre évasion fiscale. Donc lui, on attend quand même 4 mois parce qu'il faut vérifier, etc. On ne sait même pas sûr qu'on ait vraiment vérifié. Delphine Bateau, elle dit, écoutez, j'ai pas assez d'argent. 10 heures après, c'est inadmissible.
On a l'impression que de découvrir aujourd'hui que quand t'es en politique, faut que tu pèses. Effectivement, que Montebourg et Bateau, il n'y a pas photo. Je vais dire, c'est pas la même chose. Moi, je pourrais faire de la politique. Tu veux dire ce que je pèse?
Non, mais c'est vrai que ne soyons pas naïfs. C'est du rapport de force. Montebourg, il a fait 17% en primaire. Delphine Bateau, rappelons quand même un peu son parcours, parce qu'on n'a pas beaucoup dit peut-être
sur les
antennes.
Et c'est fâché avec trop de gens dernièrement, moi.
Il faut rappeler une chose. Déjà, que les écologistes, il y a encore une semaine, l'avaient dans le collimateur. Alors maintenant, c'est devenu leur martyr. Oui. Mais il y a une semaine, ces mêmes écologistes trouvaient qu'elle était nulle. On peut retrouver des déclarations. Il faut dire également que c'est au départ une protégée de Ségolène Royal. Elle a d'ailleurs été élue députée. Elle va redevenir députée d'ailleurs dans sa circonscription. La circonscription de Ségolène Royal. C'est d'ailleurs pour ça que Ségolène Royal a été obligée de se déporter à La Rochelle, chez Falorni, et on se souvient du psychodrame. Mais depuis, les deux femmes, nous dit-on, sont fâchées parce que Delphine Bateau n'aurait pas, par exemple, pris des voitures Eliez dans son ministère pour soutenir les voitures électriques de cette entreprise en difficulté. Donc peut-être que Delphine Bateau, ça arrange tout le monde de s'en séparer.
C'est pas une femme de réseau visiblement. Elle a pas d'appui. C'est pas quelqu'un qui non plus a cherché à les entretenir. Elle a été isolée.
Elle est quand même l'une des porte-paroles de campagne de Hollande.
J'allais le préciser exactement. C'est quand même une ancienne porte-parole de Hollande. Donc quand même, on voit bien que c'est pas quelqu'un qui pèse lourd. Mais à nouveau, je dis bien, ça peut être contre-productif parce que ça peut donner l'impression que Hollande le mou finalement n'est fort qu'avec les faibles face aux forts. Parce que moi, ce que je me demande dans les jours qui viennent, toutes ces initiatives qui devaient être prises par Benoît Hamon, Vincent Peillon, Cécile Duflot pour continuer d'essayer d'ancrer le gouvernement plus à gauche avec des déclarations, des réorientations économiques du gouvernement, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont oser quand même se lancer ou est-ce qu'on va assister à un immense alignement de tous? Ça va être intéressant à suivre.
Alors, je voudrais dire que la soupe est trop bonne et que personne n'aurait le courage d'aller au bout de ses opinions. Alors là, franchement, ça, je ne peux pas l'admettre. C'est des gens de gauche quand même.
Quelques réactions sur internet, rmc.fr. Il y a tout d'abord Maggie de Gironde. On ne peut pas reprocher à Hollande de faire ce qu'il avait annoncé. C'est vrai qu'il avait dit, il finit les couacs.
Pour une fois qu'il fait
mais
ce qu'il
la façon est un peu cavalière. J'espère que la politique écologique continuera tout de même, car pour moi, c'est l'avenir, contrairement à ce que pensent Johnny Blanc et Etienne Yebig. Greg des Ardennes à Sedan. Bonjour. Même moi qui ne suis pas de sensibilité de gauche, je trouve ça atterrant, honteux et indigne de la part du chef de l'État lorsqu'il agit de la sorte et fait deux poids, deux mesures. Bienvenue au sein du national-socialisme dictatorial.
Un petit mot quand même. Je pense pas qu'on ait dit avec Étienne que l'écologie, c'était, il n'y avait pas d'avenir. Les gens interprètent mal les propos. Je pense que clairement, il y a de l'avenir dans l'écologie, sauf que ou on s'en donne les moyens ou on arrête d'en parler. C'est tout. Et comme personne ne veut s'en donner les moyens, ça sert à rien de faire du blabla.
Personne, si on veut, c'est toujours pareil, c'est un choix politique.
T'as raison.
C'est un choix politique. Et Hollande ne fait pas ce choix politique.
Oui, mais enfin, il nous a fait du blabla pendant la campagne et tout. Si les écolos l'ont soutenu, c'est parce qu'il s'est engagé. Et il ne respecte pas aujourd'hui. Donc voilà.
Les écolos, la malchance pour eux, c'est qu'ils ont finalement le socialiste sans doute le moins écolo au pouvoir.
Aussi.
La rue Martine Aubry, peut-être que ça aurait été indifférent.
La malchance des écolos, c'est qu'ils ont fait 2%. Et quand tu fais 2%, c'est exactement comme Bateau, tu pèses rien. Donc,
c'est pas vrai.
Mais pour aller dans le sens, je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Johnny, on peut se demander s'il y a besoin d'un ministère de l'écologie ou est-ce qu'au contraire, ça devrait faire partie du cahier des charges de tout ministère. Ça fait penser au ministère de la ville, c'est-à-dire que quelque part tu vois bien que c'est normalement ça devrait concerner des tas de ministères.
Allez, au 32-16, nous sommes avec Céline. Bonjour Céline. Céline est avec nous, conseillère téléphonique dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Salut Céline.
Salut, bonjour à tous. Moi, pour moi, un bateau, elle a bien fait de partir, hein. Elle a coulé, elle a levé l'ancre, elle manquera à personne.
Elle a levé l'ancre, c'est beau tout ça. Ouais, enfin, elle n'a pas décidé elle-même.
Hein. Un petit jeu de mots. De toute façon, à part, pour moi, en fait, le problème de ce gouvernement, c'est que l'écologie égale fiscalité.
Ah oui, c'est punitif. C'est punitif.
À chaque fois qu'on entend écologie, alors on va mettre une taxe sur les meubles, donc merci voilà. Madame Bateau, c'est plus cher. On va mettre une taxe sur l'essence, c'est encore plus cher. On va mettre une taxe là. Donc pour moi, c'est pas ça l'écologie. Hein. Donc si c'est ça pour eux, c'est une fiscalité, autant supprimer le ministère et le rattacher au ministre de l'économie. Comme ça, ça fera un ministre en moins, un de l'économie, puis tous les conseillers derrière.
Qu'on
se demande de faire
ça. Alors, Céline nous parlait de la fameuse taxe sur le diesel, oui. Hein, qui est défendue par les écologistes, oui, par Delphine Bateau, et qui a été refusée pour l'instant par le gouvernement.
Oui, moi, oui non, mais ils nous ont rajouté des taxes. Hein. Moi, je suis allée, je sais pas, par exemple, dans un magasin, et j'ai vu 1 euro, 7 euros en plus. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est plus cher? Elle m'a dit, ah, c'est la nouvelle taxe écolo. Mmh.
Ouais, enfin, Céline, il va peut-être falloir juste à un moment que les gens se demandent ce que deviennent leur téléviseur, leur portable, ouais. Leur frigidaire, leur congélateur, leur lecteur DVD. Non, mais on est dans une société d'hyperconsommation. Tout est organisé d'ailleurs pour qu'il y ait une vétusté accélérée de tout le matériel. Demandez-vous aussi ce que ça devient. Et j'aimerais préciser,
on
vous avez raison.
Ouais. Il y a peut-être des solutions. Je voudrais finir avec Céline. Penser, dans ce cas-là, autrement l'écologie, c'est-à-dire dans ce cas-là, dire mettre en place. Par exemple, il existe. Il y a plein de sites où on peut donner. Il y a, par exemple, je sais pas, de nombreux .org ou si on, au lieu de débarrasser, on donne aux gens qui derrière recyclent. Il y a d'autres façons de penser. Par exemple, je sais pas, pour moi, l'écologie, c'est plus une façon de penser, je sais pas, de faire attention au tri, jeter, faire attention. Okay. Quand on voit les mers, les océans qui sont jonchés d'ordures, on n'entend personne crier au scandale. Il y a des, je sais pas, des poissons en voie de disparition. On voit la pêche de masse, ce que ça produit. Okay. On n'entend personne se battre pour ça. Donc, pour moi, c'est pas l'écologie. C'est pas tout de suite des mesures fiscales. Moi, okay. J'entends que ça.
Mais justement, à propos de la fiscalité, vous dénonciez certaines taxes, ok. Moi, je tiens aussi à rappeler que la fiscalité en termes d'écologie, c'est aussi beaucoup d'exonérations. On en a dépensé des centaines de millions pour exonérer les panneaux solaires, des pompes à chaleur, le renouvellement des fenêtres. Mais il y a des tas de gens aussi qui ont bénéficié d'une fiscalité verte.
Moi, je n'ai pas de panneaux solaires, je suis locataire, donc j'ai aucune niche fiscale, je paye tout plein pot, donc moi, je ne me sens pas du tout concerné par les mesures. Écologique, hein.
Mais elles existent.
Non, mais je crois que Céline a raison dans le sens effectivement toutes les taxes qui ont été créées comme ça sur l'éco participation. Quelque part, tu sais très bien que ces taxes-là, elles ne revont pas au recyclage du tout. Ça sert à rentrer dans le budget de l'État. Termine. Il y a des entreprises qui font du recyclage, qui gagnent de l'argent avec ça. Et voilà, c'est pour l'État qui subventionne ça.
Hein. Tout à fait. Oui.
Merci Céline. Merci Céline. Très bonne journée. À l'écoute d'RMC. Merci d'avoir vu au 32-16. Et puis il y a aussi donc la rébellion des écologistes. Les leaders écolos se sont réunis hier soir pour décider si oui ou non ils devaient quitter le gouvernement et la majorité. Et rassurez-vous, ils restent. Mais attention, il va falloir quand même donner quelques signaux à l'égard de l'écologie. C'est ce que dit notamment le ministre vert Pascal Canfin. Il y en a deux, Duflo et Canfin. Craignez-vous le départ des écologistes? Devaient-ils quitter ce gouvernement? À tout de suite sur RMC. On posera la question justement à un de ses leaders.
RMC, 10h-13h, Olivier Truchot et les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules avec aujourd'hui Johnny Blanc, Étienne Liebig et puis notre instit qui vient de Normandie, qui est avec nous, Sylvain Grandserre.
Et j'y retourne.
Et qui retourne ensuite immédiatement après. Hein. Tu repars
au soleil. Bon.
Allez, au soleil. Profitez des belles couleurs du soleil normand. Allez, on va rester sur Delphine Bateau un instant, mais surtout sur la réaction des leaders écologistes hier soir qui se sont donc réunis pour décider de finalement rester au gouvernement, mais il demande des actes écologiques forts. Le ministre Pascal Canfin, ministre délégué au développement, qui est écologiste, a dit attention, on peut quitter ce gouvernement si on n'avance pas sur le budget. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous croyez vraiment que cette menace sera prise au sérieux, Johnny?
Écoute, comme je pense sincèrement qu'effectivement, quand tu regardes aujourd'hui dans les ministères comment ça se passe, t'as vraiment l'impression que t'as une somme d'individualités, que chacun bosse, prêche pour sa paroisse, et puis maintient son petit confort et son petit truc. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une réalité, une réelle envie collective de faire quelque chose ensemble pour qu'on avance vraiment sur quelque chose. Donc je pense qu'aujourd'hui t'as deux ministres écologistes qui sont là. Bah écoute, ils sont en poste. Après tout, ce que pense, rappelle-toi quand même les propos de Duflo à l'époque où elle était uniquement écolo. Elle était quand même un peu plus virulente qu'elle l'est aujourd'hui, quoi. Donc
ça veut dire que Delphine
Delphine Bateau finalement a eu le courage mais que n'a pas Cécile Dufour.
Écoute, j'écoutais ma mère hier soir, quand t'écoutes ma mère parler du gouvernement, bientôt fallait tout casser, t'imaginer. Et puis hier
tu
soir.
Tu peux nous faire Noël ma mère, vas-y.
Et ma mère, elle te dit oui, bon, alors on verra, mais au mois de septembre, mais enfin voilà, c'est tout ce
même. En même temps, il faut reconnaître que c'est toujours un véritable problème quand on est engagé dans une. Imaginons que ces gens soient honnêtes et soient engagés dans une idéologie. C'est-à-dire, tu viens défendre ton idéologie et tu te retrouves, tu sais que tu vas te retrouver coincé et tu dis, vaut mieux être là et faire ce que je peux faire, c'est-à-dire peut-être 14 ou 15% de ce que j'aurais voulu faire que de carrément rien faire. C'est ce que dit Madame Voynet après son passage au ministère de l'écologie. Je pense qu'ils sont tous conscients qu'ils n'arrivent pas au bout. Tous ça, je dis ça, si ces gens sont honnêtes. S'ils viennent juste pour le steak, là, on est tout à fait dans une autre conception de la politique. Mais s'ils viennent parce qu'ils sont profondément honnêtes et qu'ils veulent arriver à se battre pour leur idée, je pense qu'ils ont raison de rester.
Ben, je crois plus à la première solution.
Sylvain, non, mais c'est un cas de conscience entre compromis et compromission. On fait pas de politique sans compromis. Voilà, t'es obligé effectivement d'accepter de renier certaines marges. Après, t'en fais parfois avec des compromissions et tu bascules. Donc moi, je distinguerais peut-être Cécile Duflot et Pascal Canfin. Alors, on a le droit de faire des pronostics. Moi, je verrais bien Cécile Duflot rester et j'ai des doutes sur Pascal Canfin, qui a pas du tout la même histoire, qui est pas du tout sur la même démarche. Et je ne serais pas surpris finalement de. Il lance quand même une espèce d'ultimatum ce matin, Pascal Canfin. C'est rare d'avoir un ministre dans un gouvernement.
Je crois qu'il était fini, l'ultimatum.
Mais voilà, mais tu vois, on a
je croyais que Bateau avait été viré justement parce qu'il avait lancé en quelque sorte un ultimatum.
Quelle est la différence entre ce que fait Pascal Canfin ce matin et ce qu'a fait Delphine Bateau
l'autre jour? Pascal fait des cartons.
Mais non, mais sérieusement, ce matin, il lance une espèce d'ultimatum en disant.
En fait, peut-être tous ces ministres en ont marre d'être dans ce gouvernement. Ils se disent, on se barre.
C'est aussi les vacances. Pendant deux mois, j'ai pas le droit de barrer alors que je me suis acheté une maison en Italie. Alors les gars, ils démissionnent en juillet, puis ils viendront en septembre pour voir s'il y a un taf.
Mais c'est pas faux, c'est bien vu. Effectivement, Pascal Canfin fait du Delphine Bateau. On va voir si il va se faire monter les bretelles. Allez, nous sommes avec Yannick Jadot. Alors justement, il fait partie de ces leaders écologistes qui, depuis hier, expriment leur colère. Yannick, bonjour. Eurodéputé, bonjour. Europe Écologie Les Verts. On vous connaît bien ici dans les grandes gueules. Bon, sincèrement, est-ce que c'était pas un peu ridicule cette réunion provoquée hier par les leaders écolos pour finalement nous dire « Ah ben, on reste ».
Non, c'est pas ridicule parce que ce qu'a révélé le limogeage de Delphine Bateau, c'est aussi le ras-le-bol des écologistes, la frustration d'être dans un gouvernement auquel on appartient, sur lequel on essaye de faire bouger les lignes, et depuis un an d'être frustré de décisions qui iraient dans le sens de la transition énergétique, de la fiscalité écolo. Donc on est que ça a été rappelé par certains intervenants, on est sincère dans cette démarche, on est plutôt sur une logique effectivement, vaut mieux obtenir 15% que 100% de rien du tout, en étant à l'extérieur, mais on a rappelé des éléments extrêmement clairs. La semaine prochaine, le gouvernement va sortir ses investissements d'avenir. On va voir si il y a des investissements vers la transition écologique. On a deux débats qui s'achèvent, deux processus qui ont duré depuis des mois sur la transition énergétique, sur la fiscalité écologique dans le budget 2014. S'il n'y a rien de sérieux, de concret, de suffisant dans ces décisions-là, dans ces arbitrages-là, vous verrez que les écologistes quitteront le gouvernement.
Mais, vous avez entendu tout à l'heure, Yannick Jadot, je comprends très bien, mais vous avez entendu tout à l'heure Céline qui était au 32-16 et qui, pour elle, elle avait l'impression finalement que l'écologie, c'était toujours des taxes supplémentaires, c'était punitif. Alors on paye un peu plus son diesel, on paye un peu plus tel meuble parce qu'il est pas fait avec du bois venu de contrées écologiques, enfin bref, donc c'est toujours punitif, c'est toujours quelques taxes supplémentaires.
Écoutez, je crois pas quand on dit que dans les investissements d'avenir, il faut absolument investir dans la rénovation des bâtiments, c'est aussi pour que, au-delà du climat, au-delà de la consommation d'énergie, c'est aussi pour que les citoyens payent 3-4 fois moins cher leur facture de chauffage. Quand on dit qu'il faut aller vers les transports collectifs, quand on a le diesel, aujourd'hui, il y a un privilège qui est accordé au diesel. Ça coûte 7 milliards à la collectivité, y compris
Mais pour l'automobiliste, c'est pas vécu comme un privilège pour l'automobiliste. Si vous augmentez le diesel, l'automobiliste va dire, ben voilà, ça augmente à nouveau. À cause de l'écologie.
Ce que nous proposons, c'est, on a quand même 16 000 morts liées au diesel dans notre pays par an. C'est 4 fois les accidents de la route. Alors, on peut choisir de mettre la tête dans le sable et de ne pas le voir, mais c'est aussi une réalité. Nous, ce que nous proposons...
Oui, mais c'est votre solution qui n'était pas bonne.
Non, attendez. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter progressivement qu'il y ait un rattrapage de la fiscalité diesel sur la fiscalité essence, mais que l'argent reçu servent à aider tous ceux qui aujourd'hui ont un véhicule.
Mais pourquoi on fait pas le contraire? Pourquoi on ne baisse pas l'essence? Pourquoi on ne baisse pas l'essence? Vous augmentez une fois de plus une taxe sur le diesel. Pourquoi vous faites pas le contraire? Baisser l'essence. Si l'essence est moins chère que le diesel, on achètera de l'essence.
Ce que je propose, moi, c'est qu'on augmente le diesel, qu'on baisse l'essence. Et que l'argent collecté nous permette d'aider à tous ceux qui aujourd'hui sont coincés de pouvoir changer de véhicule vers un véhicule sobre qui soit pas, qui les comprenne pas
au diesel. Monsieur Jadot, vous avez quand même conscience qu'aujourd'hui en France, toutes les boîtes de transport sont en train de se casser la gueule, que tous les mecs sont en train de monter des succursales en Bulgarie pour pouvoir proposer des prix de transport appropriés corrects pour pouvoir conserver un marché. On nous met l'écotaxe à partir du mois d'octobre sur les nationales, donc on paiera l'autoroute et la nationale et encore une taxe sur le gasoil. Mais vous croyez quoi, l'emploi en France, ça tombe du ciel ou quoi?
Est-ce que vous avez conscience que l'économie française est en train de s'effondrer à force de ne pas bouger, que l'écotaxe existe dans un certain nombre de pays, en Allemagne, dans les pays nordiques, où la situation économique va mieux, et que le problème du transport n'est pas un problème du coût du carburant au niveau européen, c'est un problème de dumping social, et qu'il faut régler le problème du dumping social. La question du dumping social.
Oui, monsieur Jadot, je veux quand même vous dire que dans les boîtes de transport, l'an dernier, rien que le surcoût carburant a avalé tous les bénéfices de l'entreprise, pratiquement. Donc, faut arrêter de dire que c'est pas un problème.
Il y a des dérogations, monsieur. Il y a des dérogations sur le diesel dans les transports, notamment sur les entreprises. L'idée n'est pas de toucher à ça. L'idée, c'est qu'on a une industrie automobile qui se casse la gueule parce qu'elle est enfermée dans le diesel. On a des automobilistes qui ne rentabilisent pas le coût supplémentaire qu'ils achètent dans le diesel parce qu'ils roulent pas plus de 25 000 kilomètres et qu'on a 16 000 morts liés aux particules fines. Est-ce qu'on reste à pas bouger ou est-ce qu'on essaye de faire évoluer progressivement les choses pour qu'à la fois les automobilistes soient moins coincés avec leurs factures de carburant, que les secteurs économiques innovent et soient aidés pour innover, pour avoir aussi, pour avoir moins de factures de carburant, et qu'on ait une industrie automobile qui s'oriente sur les secteurs d'avenir.
Et si on commençait par virer tous ceux qui nous ont imposé le diesel pendant 20 ans, et les patrons des boîtes qui savaient très bien que ça se vendait qu'en France uniquement, et qui continuent d'avoir des boîtes automobiles.
Tu veux virer le patron des
boîtes? Les erreurs politiques comme ça, c'est absolument incroyable. Là, vous êtes en train de nous dire qu'à cause de mecs qui ont fait des choix dans des cabinets dans lesquels qui se réunissaient, ils ont fait des choix pour tuer les gens et griller l'industrie automobile. Et ces mecs-là sont toujours au pouvoir. Bah, faudrait peut-être faire voir ce qu'on peut en faire, parce que c'est quand même dur d'entendre des trucs comme ça.
Hein. Aussi, oui.
Eh bien, je suis d'accord. Si vous m'expliquez que il n'y a pas eu dans ce pays les choix qui nous permettent aujourd'hui de lutter contre un monsieur Mittal qui est en train de bousiller la sidérurgie européenne, de faire en sorte que l'industrie automobile qui touche des milliards de soutiens soit aussi une industrie qui fasse attention à ses salariés, qui investissent dans des projets d'avenir. Si vous m'expliquez que on a trop favorisé une agriculture qui aujourd'hui réduit son nombre de paysans et qui utilise trop de pesticides, tout ça, je suis d'accord avec vous, mais la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on fait le statu quo en se disant on est dans les sables mouvants, ne bougeons pas parce que de toute façon sinon on ne fera que s'enfoncer plus vite, ou on se dit que il y a une autre façon de gérer notre industrie, notre économie, le pouvoir d'achat et notre vivre ensemble, et qu'il faut y aller. Et c'est ça qu'on demande au gouvernement.
Yannick
c'est pour ça qu'on met la pression sur le gouvernement aujourd'hui, pour qu'il y ait enfin les ruptures
la pression,
par rapport à tous ces enjeux-là.
Écoutez, la pression très bien, mais on a vu, Delphine Bateau a voulu mettre la pression sur Jean-Marc Ayrault, et en 10 heures, elle a été virée. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, sincèrement, Yannick Jadot, pour François Hollande, c'est pas une priorité. Moi, j'ai souvenir quand même que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est nommé président de la République, quand il est élu président de la République, il nomme quand même des personnalités fortes à ses ministères. Jean-Louis Borloo, il y a eu Alain Juppé, il y a eu NKM, il y avait le Grenelle de l'environnement. Alors peut-être que tout ça n'a pas abouti, mais il y avait quand même une volonté.
Un grand ministère.
Il y avait une volonté, et c'était un grand ministère. Ouais. François Hollande arrive au pouvoir, il nomme Delphine Bateau, et ce n'est pas lui faire injure pour dire que Nicole Bricq et Delphine Bateau pour dire que ce ne sont pas des poids lourds politiques, même si elles ont sans doute beaucoup de talent. Voilà, c'est un poste secondaire pour. Et bon là, il met Philippe Martin. Donc non, mais écoutez, à mon avis, Yannick Jadot, vous vous faites balader par François Hollande depuis le début.
Mais écoutez, la question c'est est-ce qu'on serait mieux dehors?
Est-ce que vous pensez
qu'aujourd'hui Mélenchon arrive à changer quoi que ce soit dans la politique de ce pays? Est-ce que simplement on est confortable dehors à hurler en disant ça va pas? Ou est-ce qu'on essaye tant qu'on a un espace, tant qu'on pense qu'on a un espace? Mais si vous me dites que nous, nous les écologistes, on a aujourd'hui acquis une culture de gouvernement, et vous avez raison, ce gouvernement n'a pas acquis de culture écolo. Il nous reste 2 mois pour savoir si ce gouvernement est prêt à enfin s'engager sur la transition écologique qu'avait promis le président de la République, et puis sinon, on fera autre chose.
Non mais est-ce que je comprends pas, Moi, quand même quelque chose qui me sidère dans ce que j'entends. Quand on augmente l'essence d'un centime, ça fait la une des journaux, on a le droit à tous les plateaux. Et quand on annonce 16 000 morts par an, 16 000 morts prématurées par pollution, tout le monde s'en fout. Moi, je suis sidéré dans les écoles, on reçoit régulièrement des alertes pollution. On est en 2013 en France, on nous demande de pas faire sport certains après-midi tellement c'est pollué. Je travaille à la campagne, on voit des gamins débarquer de la ville parce qu'ils sont en danger sanitaire s'ils restent en zone urbaine, et ça tout le monde s'en fout. Moi je suis désolé, l'écologie, je c'est refuse d'entendre que c'est un luxe. Il y a des gens pour qui c'est vraiment une nécessité vitale tellement c'est pourri. Les agriculteurs développent des tas de cancers qui sont des maladies professionnelles tellement ils balancent de saloperies. Nous à la campagne, on sait très bien qu'il faut fermer les fenêtres quand un agriculteur s'occupe de son champ. Enfin, il y a un moment, arrêtez de voir les écolos comme uniquement des espèces de Khmer. Vous êtes avec des gens responsables. Et moi, je comprends aussi la position de Yannick Jadot. On a toujours reproché aux petits partis, pour le faire vite, de ne pas mettre les mains dans le cambouis. Là, au moins, ils sont à l'intérieur. Alors après, moi, j'aimerais avoir son avis. Est-ce que Pascal Canfin et Cécile Duflot, Yannick Jadot, est-ce que Pascal Canfin et Cécile Duflot seraient sur la même stratégie, justement, de rester à l'intérieur? Moi, j'ai l'impression, quand je lis ce matin l'ultimatum de Pascal Canfin, qu'on est quand même pas loin d'un clash.
On n'est pas loin d'un clash. Quand personne, si vous voulez, Delphine Bateau a fait ce qu'elle a pu, maintenant, quand le Premier ministre lui envoie défendre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou le nucléaire, ça la met pas en situation facile. Elle s'est battue, elle avait raison sur le budget, mais les écologistes ne vont pas mourir pour Delphine Bateau. Philippe Martin est aussi quelqu'un qui a quelques combats écolos à son compteur, sur les gaz de schiste, sur les OGM.
Oui, mais on peu importe quelle personne,
sa feuille
en fait.
De route. On va voir quelle va être sa feuille de route, mais je peux vous assurer qu'on est effectivement au bord de la rupture parce que ça fait un an qu'on attend. On sait qu'on a 2 échéances majeures qui arrivent sur la transition énergétique. Est-ce qu'on fait plus d'économies d'énergie, plus de renouvelables, et sur la fiscalité écolo, est-ce que plutôt que de taxer le travail, on taxe les pollutions, pour faire très simple. On verra si ce gouvernement a envie de faire des choses. S'il n'a pas envie de faire des choses, c'est qu'on ne pèse pas. Et à ce moment-là, même cette responsabilité qui est de mettre deux mains dans le cambouis ne se justifiera plus.
Mais monsieur Jadot, pourquoi l'écologie doit forcément être à gauche? Expliquez-moi ça, j'arrive pas à le comprendre.
Demande ça au mec de droite.
Non, mais attends, mais excuse-moi.
C'est les... Yannick Jadot, un ancien de Greenpeace, pourquoi l'écologie?
Mais tu m'excuseras, les écolos, c'est quand même, ils se mettent dans le parti pluriel de gauche. Tu m'excuseras, en quoi?
Non, mais il y a eu Antoine Vester.
En quoi l'écologie doit forcément être à gauche? Moi, ça, tu m'excuseras.
Attends, Corinne Lepage, c'est pas une gauchiste. Antoine Vester, c'est pas un gauchiste.
Nicolas Hulot non plus.
Nicolas Hulot non plus.
Oui, enfin, j'ai jamais vu un écolo se faire un parti de droite. Tu m'excuseras. Donc,
donner des noms là.
Oui.
Parce qu'il y a dans la volonté de l'écologie politique, la protection de l'environnement, elle peut être largement partagée. Mais il y a dans l'écologie politique l'idée de justice sociale, l'idée de plus de démocratie, l'idée d'avancer sur les questions de société, l'idée d'être plus européen, d'être plus pour la décentralisation, qui fait qu'aujourd'hui, notre allié le plus proche, mais ça ne sont pas des écologistes, notre allié le plus proche, c'est plutôt les socialistes. Mais vous savez aussi qu'en Allemagne, les Grünen, les Verts allemands, dans certaines régions, ont des alliances avec les partis de droite, qui sont des alliances sur des programmes. Voilà.
Merci, Yannick Jadot.
France, on est plutôt notre allié naturel aujourd'hui, avec lequel, vous le savez, on a parfois de sérieuses difficultés. Ça reste les socialistes.
Eh oui, les socialistes.
Vous avez raison, parce que tous ces sujets ont largement avancé depuis 18 mois.
Le cauchemar des écologistes, ce sont les socialistes.
C'est
en fait. C'est encore plus embêtant que le diesel. Bon, allez.
Les en particules socialistes sont nocives.
Au revoir, Yannick Jadot. Merci d'avoir été en direct.
Juste un dernier mot. Quand vous tapez sur votre smartphone PS, Parti Socialiste PS, il essaye de corriger automatiquement en os. Voilà, c'est un peu notre histoire.
Merci Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Allez, dans un instant, une photo, la photo de la Discorde, celle de Coluche, photo célèbre en noir et blanc, qui orne depuis leur création en 85 les Restos du Cœur. Mais les Restos du Cœur ne pourront plus utiliser cette photo. Pourquoi? On vous explique tout dans les grandes gueules sur RMC dans un instant.
RMC, 10h-13h, Olivier Truchot et les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct jusqu'à 13h sur RMC. Quoi de neuf au pays d'Hollande? Eh bien, on vous racontera comment, selon certains, Bernard Tapie aurait essayé de faire gagner sa fille Sophie à l'émission The Voice. Faut-il un arbitrage? On en parle tout à l'heure.
400 millions. Moi, je dis que ça vaut 400 millions dans cette saison-là.
Mais tout de suite, mes chers grandes gueules, Sylvain Grandserre, Étienne Yebig et Johnny Blanc, je voudrais qu'on s'intéresse un instant à cette photo, le portrait de Coluche, qui ne pourra plus illustrer la campagne des Restos du Cœur.
Il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent, ben, je sais pas. Alors nous, on sait et on le fait, voilà.
Je pense qu'au 32-16, il va se faire traiter d'enfoiré. Gaston Bergeret. Gaston Bergeret, c'est donc l'auteur de la célèbre photo de Coluche qui orne tous les supports de communication des Restos du Cœur depuis bien longtemps, depuis leur création en 1985. Et donc, il a décidé d'assigner en justice l'organisation caritative. Pourquoi? Parce qu'il y a l'utilisation de son cliché sans contrat écrit pendant maintenant 30 ans. Ça continue, il ne touche aucun droit là-dessus. Alors, selon les Restos du Cœur, qui confirment l'information, en fait, il y a eu un accord verbal il y a 30 ans, voilà, et qui ne prévoyait aucune rétribution commerciale. Et donc, on a pu ensuite utiliser ce portrait de Coluche. Alors, jugez-vous l'attitude du photographe totalement honteuse, ou a-t-il raison de faire valoir ses droits? J'ai beaucoup de réactions. Tout d'abord sur Twitter, j'ai par exemple Stéphane qui est photographe et qui dit oui, c'est clairement honteux, une honte pour notre profession de photographe.
Je suis pas d'accord du tout. Non, attendez. Bon, il y a une énorme maladresse à demander le retrait de tous les portraits de Coluche dans tous les Restos du Cœur. Hein. Enfin, à mon avis, d'ailleurs, le premier scandale, c'est qu'il y a encore des Restos du Cœur en 2013.
Attends, c'est une décision de justice. Oui. La photo a été retirée du site internet de l'association et des 2000 antennes.
Mais le problème, il n'est pas. Le problème, c'est que ce photographe, effectivement, fait don de son travail. C'est une création. Voilà, la photo est réussie. Tant mieux. Il en fait don pendant 27 ans et il découvre au moment des concerts des Enfoirés que les techniciens et les artistes ont désormais un t-shirt et il y a une société qui visiblement là, Eleven Paris, souhaitait le commercialiser. Par contre, là ce que je comprends pas, c'est que d'un côté, donc je comprends ce photographe, s'il découvre qu'une boîte de vente de t-shirts se fait de l'argent grâce à son boulot, il a le droit de l'avoir mauvaise et de réclamer des droits d'auteur sur sa photo. Mais là où je comprends pas, c'est que sur le site d'Eleven Paris, je lis exactement le contraire, où il précise qu'il y aura pas de commercialisation du t-shirt. Donc là, il y a quelque chose qui va pas dans sa démarche, quoi. Parce que lui, il accuse une société de mettre en vente le t-shirt sans autorisation d'utilisation de l'image. Et moi, je lui dis exactement l'inverse. Donc là, il y a un problème d'information.
Johnny Blanc, est-ce que son attitude, c'est vrai que ça arrive 30 ans après, est honteuse?
Je sais pas si c'est honteux, toujours, c'est très mal exprimé, toujours. Ouais. Là. Parce qu'effectivement, quand tu vois l'info, le titre, tu fais abstraction de tout ça. T'as vraiment juste l'impression d'un mec qui est en train d'essayer de pomper du fric au Resto du Cœur. Évidemment, personne peut être insensible à ce genre de choses.
Mais c'est un combat difficile à faire passer.
Voilà. Mais après, je vais dire un truc. Je pense que des photos de Coluche, il y a quand même pas que celle-ci. Donc, il me semble que ça va être assez facile pour le Resto du Cœur de trouver même un autre photographe qui sera certainement heureux de mettre son travail sur le site des Restos du Cœur, sans retour de finances, quoi. Donc, quelque part, mais je trouve assez, une photo, je vais dire, on dit c'est un travail, effectivement, c'est un travail, c'est quelque chose. C'est aussi, je veux dire, l'image que t'as pris de quelqu'un, ça lui a, enfin, ce cliché, t'appartient pas forcément. Évidemment, t'as réalisé le clic du moment.
Il y a des lois sur la propriété.
Oui, on est d'accord. Mais enfin, je vais dire, bon, aujourd'hui, je vais dire, c'est quand tu regardes cette photo, tu regardes le travail du photographe ou tu regardes le mec qui a créé les Restos du Cœur.
Le problème, il est pas là. Un photographe comme Bergeret, qui est un photographe qui a fait beaucoup de photos de vedettes, c'est un type qui, pour faire une photo comme celle-là, a peut-être, je sais pas, 6 mois il a passé 6 mois avec Coluche. Je connais pas l'histoire exactement, mais je suppose que c'est un mec qui était dans l'entourage de Coluche, etc. Parce que d'abord, les mecs comme Coluche acceptaient pas de se faire photographier à tout bout de champ, etc. Parce que bon, eux aussi géraient leur image. Donc c'est ça, c'est la confiance que t'accordes à un photographe. Enfin, à un moment, c'est assez compliqué pour des vedettes du niveau de Coluche. Alors on a déjà eu ça avec le photographe qui avait fait le photographe de la petite fille pendant la guerre du Vietnam qui avait été brûlée au napalm. C'est une des photos les plus célèbres du monde. Et le mec, d'un seul coup, s'est réveillé en disant, c'est marrant, j'ai jamais gagné un centime sur cette photo-là. Il y a une célèbre photo de Cohn Bendit aussi, sur lequel, en 68, sur lequel le photographe n'a jamais gagné une thune.
Sauf que Robert c'était... Doineau. Sauf les amoureux de Robert Delaunay.
Sauf que c'était pas utilisé pour une œuvre caritative.
Alors, c'était pas utilisé pour une œuvre caritative, mais je pense qu'à un moment, alors peut-être dans sa vie, le gars, il se dit, putain, ce pactole que ça représente, et je passe à côté. Voilà. Bon, maintenant, faudrait. Je pense très sincèrement que s'il y a eu un accord verbal entre Coluche et Bergeret, je pense pas que Bergeret va rompre cet accord verbal. Je pense que c'est parce qu'il y a un événement qui a dû le mettre en boule. Du genre exploitation de sa photo à des fins commerciales, truc comme ça.
Bah, c'est gars, les t-shirts en fait.
Et le gars, il s'est dit merde, je vais pas me faire bouffer.
Ce qui m'a énervé, c'est de voir des t-shirts avec sa photo donc imprimée, et il s'est dit bah derrière, si on vend ces t-shirts à des fins commerciales, alors en même temps, on vend des t-shirts aussi sans doute pour
faire des gens. Parce que les héritiers de Che Guevara touchent de l'argent sur les t-shirts vendus. Non, mais ça me rappelle l'histoire des amoureux de Douaneau. On voit un couple s'embrasser, une superbe photo, et il y avait aussi des ayants droit qui réclamaient de l'argent. Ça me rappelle le superbe documentaire de Nicolas Philibert, Être et avoir à l'école, qui au départ est un petit commentaire sympathique, et puis qui se retrouve à faire des grands festivals, à ramasser un César, et d'un seul coup l'instit s'était dit, bah mince, il y a aussi une démarche commerciale, il y a aussi de l'argent qui rentre dans les caisses, et moi j'ai fait ça bénévolement, et j'aimerais toucher ma part. Je crois d'ailleurs qu'il avait perdu.
Il avait perdu.
Mais alors, il y a des réactions sur internet qui viennent de tomber, il y a notamment celle d'Olivier qui nous écrit sur rmc.fr, écoutez, la photo de Coluche, c'est pas très important, ce qui compte c'est la générosité de cette démarche des Restos du cœur, changer de photo, les Restos du cœur seront toujours là.
Oui, alors là, la question de la symbolique de la photographie, personne peut le dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui se passe, une alchimie qui se passe entre une photo qui devient symbolique, qui fait que dès que tu passes devant cette photo, n'importe où, tu sois en France ou là, tu penses Restos du cœur. Et on sait très bien comment fonctionne la publicité. Si les marques s'emmerdent de temps à avoir un logo qui permet d'être repérable immédiatement et qui déclenche chez toi l'envie de bouffer du chocolat. Crois-moi que le logo Coluche sur cette photo noire et blanc de Bergeret est essentiel pour les restaurants du cœur. Ne croyez pas que c'est si.
Oui, mais ça aurait été une autre photo de Coluche. Ah,
ça aurait été
une autre,
sauf que c'est celle-là qui a été choisie.
Ouais, enfin, il y a quand même quelque chose qui me choque ce matin, c'est le traitement de l'information, parce que quand même, on a l'impression qu'on est avec le pire salaud des photographes français. Oui. Quand on gratte, c'est peut-être lui qui se fait rouler. Et moi, il y a un truc qui me choque, je le dis, parce que je cite souvent le Parisien à l'antenne, mais là, pour le coup, ils ont choisi une photo de ce personnage où on le voit. Complètement fêtard, un verre à la main, ridicule, en train de montrer le photographe du doigt. Enfin, on a l'impression d'une espèce de dégénéré.
On a choisi le méchant, en fait.
Et moi, quand je vais sur internet et je regarde la photo de ce monsieur aujourd'hui, il a pas du tout la même tête, et visiblement.
Donc le Parisien choisit son camp.
Non, mais il y a un traitement de l'information qui nous invite quand même à choisir notre camp, et pour le coup, effectivement, faut pas toucher au Resto du cœur.
Ouais, 32-16. Ah bah, c'est intouchable, 32-16, comme le Téléthon. Si tu commences à critiquer des organisations caritatives, alors là,
Ramassa l'arc, faut pas toucher à l'arc.
Non, parce qu'il y a
Ah bah non,
merde.
Ramata est avec nous, 32-16. Vous vous souvenez de Ramata? Bonjour Ramata.
Bonjour les gars.
Vous vous souvenez de la voix, de la douce voix de Ramata, infirmière libérale qui était venue participer à notre semaine.
Moi, je me rappelle de tout de Ramata.
Mais oui.
Mais oui, comment je pourrais oublier?
Attends. Oui, calme-toi Étienne. Ramata, il manque d'humanité ce photographe?
Ah, totalement. Totalement, moi je suis d'accord, on ne touche pas au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est une institution.
C'est ça le problème d'ailleurs, ça ne devrait pas être une institution.
Mais oui, mais enfin, c'est des gens qui permettent d'autres personnes qui meurent de faim.
Bien sûr, bien sûr.
Et on en entend beaucoup parler quand tous les artistes ont leur petit concert annuel, les enfoirés. Mais tout au long de l'année, ils sont là, ils soutiennent les gens, ils les habillent, ils leur donnent à manger. Et enfin, moi, voilà, quand j'ai entendu cette histoire ce matin. Et j'ai l'impression de vivre dans un monde de plus en plus pourri, quoi. Vraiment, je me dis que, je comprends pas, en fait, la démarche de cet homme-là. Ok, c'est lui qui a tiré cette photo. C'est son travail d'artiste, mais elle sert une bonne cause.
Oui, mais excusez-moi, Ramata, Sylvain Grancière, vous étiez énervé ce matin au réveil en entendant ça, mais avez-vous tout entendu justement? Lui, il ne critique pas les Restos du Cœur d'exploiter la photo depuis 27 ans, puisqu'il en a fait don. Il critique la démarche d'une société de vente de t-shirts qui, a priori, souhaiterait, je dis bien, je mets tout au conditionnel, souhaiterait exploiter son cliché à des fins commerciales. Et là, on peut comprendre qu'il est mauvaise.
Oui, mais ça a des fins commerciales, tout ça, c'est pour aider les Restos du Cœur.
Oui, mais le droit d'auteur, ça existe.
Ah oui.
Et on ne travaille pas gratuitement dans la vie.
Oui, d'accord. Je suis d'accord, on ne travaille pas gratuitement dans la vie, mais c'est les Restos du Cœur. Ils ne sont pas en train de faire du pognon, ils sont en train de faire ce que l'État ne fait pas, c'est-à-dire donner à manger et à boire
Bien sûr.
À tous les Français. Donc, Enfin, je pense pas qu'il soit aux abois, ce mec-là. Je suis pas sûr qu'il souffre de la crise. Donc,
voilà. Vous savez, photographe,
ça, c'est photographe, pas, c'est pas terrible.
Non. Bon, merci Ramata, en tout cas. Non, mais je comprends ce que vous dites. Touchons pas au resto du cœur. Touchons pas au resto du cœur. Merci Ramata, très bientôt, hein. Ramata du Calvados, en Normandie. Ah, Viviane est avec nous, de Paris. Bonjour Viviane, bienvenue dans les grandes gueules sur RMC, au 3216. Viviane, vous dites, il y a un droit d'auteur à respecter.
Mais absolument, et le photographe, il en a eu ras-le-bol très certainement au bout de tant d'années de se voir exploiter à mort. Il fait un geste, mais il donne la main, on lui prend le bras. Et vous comprenez, c'est de plus en plus dans nos métiers artistiques, moi je suis comédienne. Hein.
Ah, vous êtes comédienne, bon, oui, donc vous connaissez bien le droit d'auteur.
Oui. Mais oui, bien sûr. Tout, maintenant, les amateurs nous remplacent, on fait tout approximativement, et puis nous, les professionnels, eh ben, on n'a plus que nos yeux pour pleurer à ce train-là. Alors, les restos du cœur, c'est une bonne action, etc. Mais il y a des limites, il y a des dérivés. Vous
mais
croyez
mais Viviane...
que j'aurais envoyé un petit quelque chose ? Non, même pas.
Viviane, vous savez, on est à l'heure du tout est gratuit, en fait. La musique, oui, c'est gratuit, le cinéma, c'est gratuit.
Oui, mais nous, il faut bien qu'on vive, nous les artistes, on est en voie de disparition.
Oui, non, mais vous avez raison, j'y défends votre point de vue.
En même temps, vous êtes en voie de disparition, je suis d'accord. Moi, je suis saxophoniste, je sais bien ce que vous dites. Tout le monde joue gratos partout. Mais en même temps, on est en voie de disparition, mais tous les gamins, ils deviennent tous artistes, hein. Si vous avez des potes, là, demandez aux mômes ce qu'ils veulent faire, ils veulent tous devenir artistes, n'importe lequel. Donc, on meurt tous de faim, il y en a de plus en plus.
Non, il y a certains veulent devenir Delphine Bateau aussi.
Oui,
il y
en a qui veulent.
Moi, mon fils, je lui ai dit surtout pas comédien, surtout pas, c'est trop dur, c'est affreux.
Bah oui, mais
on marche de trois ans, le reste, pour survivre, c'est très difficile.
Oui, c'est difficile. Merci, Viviane.
La fin de carrière, je sais ce que je dis. Voilà, je vous embrasse.
Merci d'avoir été au 3216. On vous embrasse, et c'est vrai qu'il y a le droit d'auteur, c'est aussi un droit qui fait vivre beaucoup de gens.
Ouais.
On va respecter, s'il vous plaît, le timing. Il nous reste 22 secondes.
Minutes de silence, j'ai
peur. J'ai trois mails à vous lire. Tout d'abord, celui de Benoît, dans les Yvelines. Bonjour, les grandes gueules. Cela paraît immoral de réclamer des droits d'auteur, mais c'est tout de même son droit. Après, si on critique sa demande, on pourrait aussi critiquer les artistes qui viennent chaque année sur scène et qui profitent de l'image des restos pour se relancer ou promouvoir indirectement leur album.
Exact.
Réaction de Klaus, nous sommes un pays de droit, donc les droits d'auteur doivent être respectés. Donc là aussi on défend les droits d'auteur. Et puis réaction de Alain, salut les grandes gueules, la bonté du cœur a ses limites semble-t-il pour ce photographe. Allez, à tout de suite dans les GG. Quoi de neuf au pays de l'Andre, on va vous parler de Sophie Tapie. À tout de suite.